Comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, j'ai le plaisir de laisser la main à Laurent Costi, chroniqueur donc de Livre à vous et vice-président de l'April, qui va interviewer Simon Poppy, membre du Césaire Occitanie et président de France
Nature Environnement.
Voilà, merci Laurent, je me perds dans mes notes.
T'en prie.
Et bien du coup voilà, n'hésitez pas à participer à l'échange sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat, je pourrai relayer à Laurent vos éventuelles questions. Et Laurent, je te laisse la parole.
Ben, merci Étienne. On va... Alors je pense que Simon nous a rejoint.
Bonjour
Simon. Alors très bien, parfait. Étienne a dressé un petit peu ton profil. On va revenir dessus. On va te présenter. Donc tu es membre de la commission du Césaire Occitanie. On va expliquer aux gens ce que c'est que le Césaire parce que ce n'est pas forcément très connu. Alors c'est une commission en plus un peu large hein, puisque c'est aménagement du territoire, politique environnementale et énergétique, transport, infrastructure, numérique, logement, si j'ai bien résumé. Et par ailleurs, président de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon. Est-ce que tu peux peut-être éclaircir un peu ces deux facettes, s'il te plaît?
Oui, alors donc France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, c'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement au niveau régional, donc qui regroupe à peu près une cinquantaine d'associations et qui fait elle-même partie du mouvement national France Nature Environnement, qui est FNE, plus connu sous le nom de FNE. Voilà, et professionnellement, moi je me définis comme écologue, je suis docteur en écologie avec à la base une formation d'ingénieur forestier, et donc je suis pas du tout issu du domaine de l'informatique ou du numérique, si ce n'est comme utilisateur. Mais bon, la question des libertés numériques, pour moi, elle est importante, et je suis notamment adhérent de l'April. Et puis donc, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie, le Césaire, en tant que représentant de France Nature Environnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé récemment à la production d'un avis sur le numérique, comme vous l'avez dit, par la commission qui s'occupe notamment de l'aménagement du territoire et qui a beaucoup de compétences, et notamment les numériques.
Est-ce qu'on peut éventuellement expliquer ce que c'est qu'un Césaire et puis le lien éventuel avec le CESE?
Oui, alors le rôle des Césaires, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Césaire, c'est la seconde assemblée régionale. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il faut savoir qu'il en existe une dans chaque région française. Les Césaires, c'est des institutions qui sont pas toutes jeunes, hein, puisque ça a commencé en 1954. Alors, elles ont évolué au fil du temps, et puis au fil de l'évolution des préoccupations politiques, puisqu'au début, c'était juste des conseils d'expansion économique. Après, en 1964, ils sont devenus des commissions de développement économique régional, donc on était toujours vraiment centré sur l'économie. Et puis, à partir de 1972, on a accolé à l'économique le terme social, et puis c'est seulement en 2010 qu'on a ajouté le terme environnemental. Alors, ça sert à quoi les Césaires? C'est des assemblées consultatives, hein, elles sont censées représenter les forces vives des régions, autrement dit, c'est une assemblée de représentants d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont choisies par l'État. Et les Césaires, il faut savoir qu'ils prennent aucune décision, hein, ils rendent uniquement des avis motivés sur des sujets qui sont censés être de compétences régionales. Après, il y a trois manières de... comment dire, de saisir les Césaires. Soit les Césaires sont saisis par la région si elle veut avoir un avis extérieur sur un sujet donné. Bon, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, c'est devenu assez rare que la région se serve de cet outil-là. Soit ils sont saisis par la région par obligation réglementaire, par exemple sur le budget régional, c'est systématique, sur tout ce qui est contrat de plan État-région, sur un certain nombre de schémas régionaux. Et soit ils peuvent aussi s'auto-saisir spontanément sur des sujets qui intéressent le Césaire, et ce qui rend les choses quand même un peu plus intéressantes, puisque ça donne une possibilité au Césaire d'initiative et d'interpellation de l'Assemblée régionale.
D'accord.
Et donc tu parlais du CESE, il faut savoir qu'il y a aussi un CESE au niveau national, donc Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième assemblée du pays, avec le Parlement et le Sénat. Là aussi, c'est assez peu connu. On en a quand même un peu entendu parler l'an dernier, je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est le CESE qui a organisé et encadré la Convention citoyenne pour le climat. Et bon, à l'instar des Césaires, ils rendent des avis sur les politiques, mais du coup de compétences nationales.
D'accord. Je peux te poser une question. Le fait que ce soit si peu connu, c'est parce que justement, ce n'est que consultatif. C'est pour cette raison-là qu'on pourrait expliquer le peu de reconnaissance de cet organe-là, qui me semble quand même important.
Enfin, c'est un avis. Je suppose. En plus, c'est pas une assemblée élue, donc comme les citoyens sont un peu tenus à l'écart puisque les membres sont nommés par le préfet de région pour 6 ans. Ils sont pas élus, donc quelque part les citoyens sont peu impliqués dans l'histoire. Et effectivement, bon, c'est une institution qui est un peu ancienne et qui passe un peu inaperçue. C'est dommage parce que ça produit quand même des avis qui sont intéressants. Et surtout, la différence avec les assemblées délibératives, décisionnaires, c'est qu'on est un peu moins pressé par l'urgence de... Disons que le César peut se permettre d'avoir des réflexions un peu plus sur le long terme, de prendre le temps de réfléchir et de poser des avis, de consulter, de faire tout un tas d'auditions, etc. Donc ça a un intérêt pour ça.
D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ça me semble extrêmement important.
Alors, t'as une question très rapide en termes de participation. Les sessions sont accessibles au public? Le public peut venir écouter comme on le ferait un conseil municipal?
Non.
Ou c'est fermé aussi? D'accord.
Non, le public ne peut pas participer. En fait, les Césaires qui y a dedans, on peut dire peut-être un mot, parce que donc c'est des gens qui sont nommés par le préfet. Par contre, le préfet, il a quand même, il est un peu contraint, il doit respecter une composition qui est définie dans un décret. Et par exemple, pour l'Occitanie, on a 170 membres. Et qui sont répartis en 3 collèges de 54 membres. Dans les 3 collèges, en gros, ça représente, pour le premier, c'est le monde des entreprises, donc ça va être l'industrie, les services, commerçants, artisans, les agriculteurs. Le deuxième collège, qui a exactement la même taille, c'est les syndicats, avec un nombre de sièges qui correspond en gros à leur représentativité. Puis le troisième grand collège, c'est les organisations et associations qui concourent à la vie collective. Donc c'est beaucoup d'associations à vocation sociale, associations caritatives, les jeunes, les personnes âgées, la santé, le handicap, l'enseignement, etc., la culture, les femmes, le logement. Et là-dedans, il y a l'environnement qui occupe une toute petite place puisqu'on n'a que 9 sièges sur 170, ce qui fait moins de 5% des conseillers. Donc moi, j'en fais partie. Et donc au final, l'environnement est affiché en gros dans le nom des Césaires, mais dans la réalité, sa représentation est quand même très très minoritaire. Enfin, voilà, c'est pas le sujet ici.
Non, mais c'est très important, je pense, d'éclairer un peu comment ça...
C'est important de dire voilà, qui est dedans, qui est dans ce Césaire.
Exactement. Alors effectivement, il n'y a pas de personnes élues, mais c'est quand même des gens issus de la société civile. Et puis du coup, quand on voit qu'il y a France Environnement dedans, on peut se dire quand même que des éléments qui vont dans le bon sens sont portés, en tout cas à la connaissance des autres secteurs, quoi. Alors effectivement, ce qui nous amène ici, c'était plutôt le rapport qu'a produit, alors sur une autosaisine, si j'ai bien compris, hein, une des trois... des trois possibilités de consulter le Césaire. Donc, si j'ai bien compris, c'est le rapport qui a été produit, c'est comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires. Et pourquoi on a décidé finalement d'organiser un petit temps d'échange sur Cause Commune et sur Libre à vous? Bah, c'est parce que finalement, il y a eu une induction forte de tout ce qui était liberté numérique, logiciel libre. Donc, c'est aussi ce sujet-là, évidemment, qu'on voulait aborder. Voilà.
C'est ça. Alors, c'est vrai que la commission... La commission 1, donc plutôt chargée de l'aménagement du territoire, a travaillé sur un grand nombre de sujets depuis 2018. Et là, en fait, comme il y a eu le déploiement de la 5G, de la fibre, on a parlé beaucoup du numérique l'année dernière. Et comme cette commission est chargée du numérique, elle a souhaité s'auto-saisir de ce sujet en 2021, mais avec un angle plutôt de l'utilité sociale. C'est pour ça que l'avis s'intitule « Comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires ?» Et bon, il traite vraiment beaucoup de thèmes qu'on va pas tous évoquer évidemment ici, mais il parle de l'inégalité d'accès au numérique, donc l'inégalité sociale, mais aussi l'inégalité territoriale, l'exclusion qui peut résulter de cette ce problème d'accès au numérique, la diminution aussi des relations humaines que provoque le tout numérique, les dangers de la cybercriminalité, la violence sur Internet, la désinformation, l'ubérisation du travail, les risques et les bénéfices aussi du télétravail. Il parle aussi de la souveraineté numérique et de l'impact environnemental, et puis aussi des questions de respect de vie privée et de liberté numérique. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de sujets. On a fait de très nombreuses auditions d'acteurs sur et d'échanges. Et l'avis, moi, j'invite tout le monde à aller le lire sur le site du César Occitanie, il est accessible. Voilà, et donc il fait effectivement un focus sur le numérique libre.
D'accord, alors effectivement on mettra le lien sur le site, hein. Étienne s'en chargera, je le remercie d'avance. Alors moi j'ai essayé de, alors j'ai pas pu lire dans la totalité de manière très très fine le rapport, mais évidemment j'ai repéré les paragraphes qui traitaient du logiciel libre. J'ai aussi, on a échangé préalablement à cet entretien où tu me disais que finalement s'il n'y avait pas des personnes qui avaient cette sensibilité là, ce type de sujet serait difficilement porté au sein du César, enfin pour être tout à fait transparent, oui, avec les auditeurs et les auditrices.
Oui, c'est clair.
Voilà, c'est toi finalement
c'est
qui.
Clair, a... oui, c'est moi qui ai impulsé cette thématique dans la vie. Je pense que sinon elle aurait clairement pas été abordée par la commission. C'est pas quelque chose qui ressortait spontanément. Voilà. Après, ce sujet-là, il est pas spécifiquement dans mes attributions. Moi, je suis d'abord un militant écologiste, mais bon, je suis aussi militant du libre, y compris dans ma structure. Et bon, vous le savez comme moi, quand on veut défendre les libertés numériques, c'est un combat au quotidien, hein. Le sujet, c'est jamais prioritaire. On est toujours face à un peu des blocages psychologiques, des habitudes professionnelles ou juste la recherche de la facilité, hein. Et c'est souvent assez frustrant. Alors pour moi, quand voilà, on a parlé de cet avis, c'était quand même une occasion qu'il fallait pas manquer pour exprimer un certain nombre de choses. Alors j'ai proposé qu'on ajoute ce chapitre sur la souveraineté numérique. Alors, il parle d'une part de l'emprise des GAFAM et toutes les conséquences que ça peut avoir, et puis voilà, il fait un focus particulier sur le logiciel libre.
Alors justement, la perception des autres membres de la commission par rapport à ce sujet-là, tu peux en dire un petit peu plus finalement. C'est des sujets qui sont très éloignés de leur prise de conscience. Et il y a un lien qui est fait avec la question de la souveraineté ou ça commence à émerger?
Oui, alors clairement, c'est pas des questions qui maîtrisent très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que le chapitre sur le logiciel libre, il commence d'abord par faire de la pédagogie pour évidemment les lecteurs de la vie, mais aussi pour le César lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait des auditions, on essaie d'éclaircir les choses, et notamment on a expliqué qu'est-ce que c'est les grandes libertés numériques, comment est-ce que on peut transcrire l'idéal de liberté, égalité, fraternité dans un monde numérique. On a essayé d'expliquer aussi le modèle économique qui est associé au libre, parce que c'est souvent la première objection qui est faite. En plus, bon, dans le César, il y a quand même une grande partie des gens qui se préoccupent beaucoup d'économie. Voilà, on a essayé de montrer qu'il existe un modèle économique associé au libre. La vie aussi rappelle que l'histoire du logiciel libre, elle est ancienne, qu'elle est solide, que ça persiste malgré tout, et puis qu'il y a quand même aussi de nombreux succès. Donc on a essayé de lister un certain nombre d'exemples qui montrent que ça marche, parce que souvent on fait face à des gens qui sont assez dubitatifs sur la question. Et puis on a fait un bilan des politiques publiques en faveur du libre, que ce soit au niveau national ou dans certaines régions qui peuvent être exemplaires. Bon, au final, on a constaté quand même que l'Occitanie, la région Occitanie, n'était pas très en avance. Il y a plutôt une lacune par rapport à d'autres régions.
Oui, du coup, je vais pouvoir me permettre de citer justement le rapport. Oui. Comparé à ces régions, la région Occitanie n'a pas investi la question du logiciel libre, si ce n'est de manière très indirecte par son soutien au développement des tiers-lieux et Fab Lab, ce qui est déjà une bonne chose. Bien qu'il y ait sur le territoire de la région Occitanie un certain nombre de collectivités en avance sur la question, voire carte des adhérents de la DULACT, par exemple, le César constate un manque d'initiatives mutualisantes de la part de la région Occitanie. Donc cet avis, voilà, transcrit exactement ce que tu étais en train de dire. Et comment on pourrait faire pour essayer de faciliter justement la mutualisation, outre évidemment un rapport du Césaire? Comment on fait pour aller au-delà du rapport du Césaire et comment concrètement on engage une mutualisation?
Bah, le Césaire essaye de faire des préconisations alors qui sont plus ou moins concrètes. Parfois c'est un peu des grands principes. Bon, là déjà le Césaire mentionne l'intérêt du logiciel libre, notamment comme un moyen pour lutter contre la précarité numérique. C'est un des points forts du numérique libre. Et puis le thème sur lequel il a fait beaucoup de préconisations, c'est la question de la souveraineté numérique, t'en parlais tout à l'heure. En fait, il fait plusieurs préconisations intéressantes. Déjà, il y en a une, c'est sur la gestion des fichiers numériques qui comportent des données sensibles sur les citoyens, par exemple des données de santé, etc. Mmh. Et le Césaire demande à la région d'être vigilante sur la localisation des serveurs sur le territoire européen, si elle doit gérer des fichiers de ce type-là. Il incite aussi la région à utiliser les logiciels libres comme le recommande l'ANSSI. En particulier, il y a un projet très concret de la région Occitanie. Elle fournit un ordinateur aux lycéens, ça s'appelle l'ORDI, L-O-R-D-I. Et en fait, aujourd'hui, cet ordinateur fourni aux lycéens, il a un BIOS qui est verrouillé et il est fourni avec Windows 10. Donc le Césaire suggère que la région pourrait envisager de passer à un système d'exploitation libre. Le Césaire a remarqué aussi que la région Nouvelle-Aquitaine est très en avance, qu'elle a même nommé un expert en logiciel libre à sa délégation numérique. Elle a créé un pôle de compétences qui s'appelle Naos, un cluster, et un incubateur aussi pour accompagner les entreprises qui développent des logiciels libres. Et le Césaire Occitanie préconise à la région Occitanie de s'en inspirer, voire même de s'associer à ces initiatives-là, quoi. Voilà, après, il y a aussi une préconisation qui incite à favoriser le passage des administrations logicielles libres et à sortir de la dépendance aux GAFAM. Ça va de pair d'ailleurs avec une autre préconisation qui incite la région à faire un bilan de sa propre dépendance aux GAFAM. D'ailleurs, si vous allez voir l'avis du Césaire en ligne, vous verrez que on voit tout de suite qu'il a été produit sous un logiciel Microsoft, puisque c'est affiché. Et donc il y a beaucoup de progrès à faire, y compris dans l'administration régionale. Donc déjà qui doit se montrer exemplaire. Et puis par ailleurs, la région, vous savez, distribue pas mal d'aides financières. Donc le Césaire préconise à la région de soutenir plus fortement les associations et entreprises du logiciel libre. Voilà, et puis aussi de privilégier l'utilisation de logiciels libres à l'école, l'équipement en matériel informatique reconditionné, et des choses comme ça.
Alors effectivement, j'avais raté le petit clin d'œil à Microsoft dans le dossier. Alors néanmoins, effectivement, j'avais noté quelques préconisations où les GAFAM sont mentionnés comme des choses à essayer d'éviter à l'avenir. Alors moi, j'avais relevé de favoriser l'intégration du numérique libre et de la maîtrise du code dans l'éducation dès l'enfance et de limiter l'entrisme des GAFAM. Donc là, on retrouve bien ce que je disais à l'instant. Dans les marchés publics, de donner la priorité aux entreprises du logiciel libre, mais pas de l'imposer et de laisser le choix. Donc ça, c'est toujours une discussion qu'on peut avoir. Mais en tout cas, il est important de faire prendre conscience de la pertinence, de regarder d'abord ce qui existe en logiciel libre et comment on peut mutualiser. De développer des initiatives mutualisantes à l'échelle régionale pour favoriser le passage des administrations au logiciel libre et la sortie de leur dépendance aux GAFAM. De soutenir plus fortement les associations et entreprises du logiciel libre régional. Alors je voulais justement peut-être avoir quelques éclaircissements. Est-ce qu'il y a des entreprises ou justement des associations qui sont un peu reconnues sur l'Occitanie par rapport à cette thématique ?
Ben je pense à la Dulac, à l'April. Après, moi-même, j'ai pas une connaissance très fine de ce secteur-là. C'est celle que j'ai repérée. Après, en fait, là, tu parlais du fait de ne pas obliger à utiliser des logiciels libres. Il y a eu un débat, en fait, au sein de la commission. Il faut savoir que dans la commission, on a des représentants d'entreprises qui font du développement logiciels ou des choses comme ça, enfin des entreprises du numérique, mais qui sont pas forcément dans le livre. Et c'est elles qui ont insisté pour que il y ait pas de ce genre de préconisation un peu trop forte en faveur du logiciel libre. Voilà. Donc c'est des gens représentants du secteur informatique qui ont obtenu ça.
Bien sûr.
Le problème de ces avis-là, c'est que c'est les uns obtiennent un peu quelque chose, les autres obtiennent autre chose. Donc il y a un effet moyennant quand on essaye de quand on débat avec une telle diversité d'acteurs et qu'on essaye de rédiger un avis. Et donc bon, voilà, on arrive des fois à quelques petites incohérences où parfois ça réduit un peu les ambitions de certains. Quoi.
Bien sûr, mais de toute façon, on sait très bien que s'il avait fallu imposer, ça a presque plus d'effets néfastes à long terme que quand on essaye de montrer la pertinence au quotidien et l'usage qui fonctionne par une transition accompagnée, quoi, par exemple.
Ça montre quand même que on a été capable, malgré cette diversité d'acteurs au sein du Césaire, de tomber d'accord sur ces préconisations-là qui sont quand même pas si anodines que ça. Après, moi, je regrette un peu qu'on n'ait pas fait des libertés numériques un axe central de tout l'avis. Là, on en a fait un chapitre à part. Moi, je pense que c'est une question fondamentale qui aurait dû cadrer toute la réflexion sur le numérique, sur cet avis du numérique, sur le numérique, au même titre que le respect des limites planétaires. Je pense que tout ça, ça aurait pu être un peu plus saillant dans l'avis. Mais bon, on a réussi à en parler. C'est déjà pas mal, puisqu'on partait vraiment de rien. Quoi.
D'accord. Moi, j'avais relevé aussi dans le sommaire de la vie, l'empreinte écologique du numérique. Est-ce que, alors justement en lien aussi peut-être avec France Nature Environnement, tu peux nous détailler un petit peu ce qui a motivé l'écriture de cette partie-là ?
Ah oui, puisque bon, ça c'est là pour le coup, c'est plus dans l'objet de mon association. La vie, donc il y a tout un chapitre sur l'empreinte écologique du numérique qui est importante. On a commencé là aussi par faire un peu de pédagogie et des rappels parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, comme le fait que derrière le numérique il y a des infrastructures concrètes très importantes qu'on a tendance à oublier puisque on les voit pas. Et puis même d'après les estimations, en plus des infrastructures, on serait aujourd'hui à 34 milliards d'équipements connectés et on pense que d'ici 2025 ça va être multiplié par 3 à 5 à cause de la 5G. Donc derrière tout ce matériel concret, finalement le plus gros impact du numérique, c'est l'exploitation minière. On n'y pense pas forcément, mais en fait c'est ça le plus gros impact du numérique. Les mines sont extrêmement destructrices, énergivores et polluantes. Alors souvent elles sont loin des endroits où on consomme, elles se voient pas trop, il y en a beaucoup dans des pays moins développés que les nôtres. Et voilà, et deuxième impact, c'est la consommation d'énergie, évidemment, avec entre autres impact les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Et puis aussi, en fin de vie, c'est 50 millions de tonnes par an de déchets électriques et électroniques. Alors donc le bilan, il est quand même, l'empreinte écologique du numérique, elle est vraiment énorme et elle va croître, elle est croissante. Alors, les solutions, il n'y en a pas 36, ça passe forcément par la sobriété. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que pointe la vie du Césaire. Après, bon, la sobriété, c'est un grand mot, ce qui signifie en creux qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'ébriété consumériste. Et donc, la sobriété, ça veut dire apprendre à s'auto-limiter, acheter des équipements qui soient pas forcément les plus puissants qui existent, les changer le moins souvent possible, réduire les usages superflus, donc ça veut dire réguler un peu les usages. Ça veut dire aussi lutter contre l'obsolescence matérielle et l'obsolescence logicielle, qui passe notamment par l'open source, et puis aussi ça passe par le recyclage, l'éco-conception, etc. Et là-dedans, en fait, la vie souligne que les logiciels libres ont aussi un rôle à jouer dans cette sobriété numérique. D'abord, il y a trois grandes raisons. La première, c'est que le modèle économique des entreprises du logiciel libre, il n'est pas basé sur la vente de matériel et de licence. Donc, il ne pousse pas à l'hyperconsommation. Il est basé sur la vente de services. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ensuite, les systèmes libres, ils consomment généralement moins d'énergie parce qu'ils répondent uniquement à des besoins des utilisateurs. Ils n'imposent pas tout un tas de choses non souhaitées par l'utilisateur et inutiles. Donc, c'est des systèmes qui sont sobres en énergie. Et puis en plus, le dernier point, c'est qu'il existe aussi des systèmes libres qui sont très légers et qui sont encore maintenus à jour, qui sont adaptés à des matériels de toutes les époques. Et donc ça, c'est la base, en fait, de l'économie du réemploi. C'est-à-dire, pour pouvoir réemployer des matériels un peu anciens, ben, il faut avoir des logiciels. Et dans le monde du libre, on trouve ça.
Bon, c'est très éclairant et ça fait fortement lien avec la chronique que j'avais préparée juste avant notre sujet, puisqu'on s'était servi du livre de Dominique Pitron. On va devoir faire une pause, Simon. Je vais repasser la parole à Étienne et puis on reprendra la suite hein, sur la question de l'empreinte écologique, les risques du numérique pour la santé. On enchaînera.
Merci Laurent. Oui, alors c'est vraiment passionnant de vous écouter. Je vais, avant de lancer la pause musicale, évoquer juste notre émission numéro 125 où nous avions reçu notamment Agnès Crépin de Fairphone et qui revenait sur un point que vous avez évoqué, Simon Poppy, sur l'enjeu de l'exploitation minière et qui alors expliquait justement l'engagement de Fairphone par rapport à cet enjeu. Donc je vous invite à retrouver le podcast sur libreavoue/125. Mais je vous propose, pour se reposer un peu les méninges, de faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Allons voir par Demi-Sel. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Allons voir par Demi-Sel, disponible sous licence libre, licence art libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous écoutons donc un échange animé par Laurent Cossy, vice-président de l'April, avec Simon Poppy, membre du Césaire Occitanie, et notamment qui a rendu un rapport très intéressant sur la place du numérique dans nos vies. Je te rends la parole, Laurent.
Voilà, comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires, c'était le rapport qu'a produit le Césaire Occitanie. Et donc nous étions en train de parler de l'empreinte écologique du numérique, effectivement qui n'est pas du tout éthérée comme on peut le penser et puis comme on aime à nous le faire croire. Les conséquences pour la planète sont de plus en plus avérées et de plus en plus lourdes d'ailleurs. Donc je repasse la parole à Simon Poppy, qui a été membre de la commission et qui va peut-être compléter et puis enchaîner aussi sur la question des risques du numérique sur la santé qui a été évoquée dans le rapport.
Oui, alors pour finir, revenir là sur la sobriété dont on était en train de parler. On a parlé en fait du choix, l'importance du choix des consommateurs, des citoyens consommateurs. Mais en fait, la sobriété ne peut pas reposer uniquement sur le libre choix des consommateurs, surtout si le consommateur en question se fait matraquer de publicité toute la journée qui le pousse à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc il faut évidemment aussi des politiques publiques qui aillent dans le sens de la sobriété à grande échelle. Le problème, c'est que quand on sort des discours sur les petits gestes individuels, des choix individuels de consommation, en fait, on se heurte très vite à un mur dans le monde politique dès qu'on commence à remettre en question le modèle de société dans lequel on vit et notamment les dogmes économiques en vigueur. Bon, ça, moi, j'ai pu le constater aussi au sein du Césaire et c'est pour ça que dans la vie du Césaire, bon, on constate que là aussi, il y a à la fois un discours qui est très développementiste, c'est-à-dire le Césaire demande à ce qu'on déploie la fibre et la 5G partout le plus rapidement possible au nom du droit d'accès universel. Enfin, il y a tout un tas de raisons évidemment à ça et de l'équité territoriale. Voilà. Mais d'un autre côté, on a aussi cette réflexion pour un numérique plus sobre. Et donc quelque part, il y a un moment donné, on peut s'interroger sur le fait que il y a peut-être des incohérences ou en tout cas ça se heurte. Et la vie lui-même, il est quand même dans une espèce de schizophrénie entre cette volonté affichée de développer le numérique le plus possible, partout, le plus vite possible, et en même temps de limiter les impacts environnementaux. Le pire, c'est qu'il en a conscience, puisque il y a une préconisation, moi qui m'a fait un peu sourire, mais qui dit le Césaire incite à dénoncer le double langage qui consiste à inciter les gens à faire des efforts de sobriété et dans le même temps les pousser à consommer un maximum.
Tu l'avais relevé.
Très bien, en fait. C'est très bien que le Césaire en ait conscience, mais c'est vrai que quand on lit l'avis, moi je reste quand même un petit peu sur ma faim. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'il soit clairement dit que le déploiement de la fibre, aujourd'hui, il est contraire à la sobriété si les usages ne sont pas régulés. Le niveau de besoin, il n'est pas le même pour faire de la chirurgie à distance ou simplement même pour faire du télétravail ou pour regarder des vidéos en ultra HD, quoi. Voilà, mais ça, c'est politiquement incorrect de le dire aujourd'hui.
Oui, parce que je me permets d'interrompre, oui. Simon, mais effectivement, après, le problème de cette question-là, qui est tout à fait légitime, hein, je trouve, moi, c'est la question de la neutralité du net. C'est-à-dire qu'on va, par contre, rentrer en questionnement vis-à-vis de cette sacro-sainte, entre guillemets, question de la neutralité du net. Pour certaines communautés, c'est compliqué d'aborder ce sujet-là. Donc oui, on est aussi pris
en sandwich. Il y a une question de liberté derrière, mais justement, il y a un moment où la question des limites planétaires forcément impose des limites à nos libertés. La question, c'est comment est-ce qu'elles sont gérées, comment elles sont décidées collectivement.
Exactement.
Est-ce qu'il y a de la justice sociale dans les limites qui sont posées? Voilà. Est-ce que les uns ont des privilèges et les autres subissent? Voilà. Donc cette réflexion-là, moi, je trouve que on n'est pas allé assez loin encore dans cet avis sur cette réflexion-là. Elle est complexe et puis peut-être c'est pas au niveau régional qu'elle doit avoir lieu. Mais en tout cas, c'est un peu le regret que j'ai.
Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on le sent bien, ce contraste, hein, dans le rapport. On parle à un moment donné quand même d'éteindre les appareils, de les mettre en veille la nuit. Et c'est vrai que ça rentre vraiment... Enfin, est-ce que c'est la première des mesures à mettre en œuvre? Je dis pas qu'il faut pas la mettre, mais est-ce que c'est la première des mesures à mettre en œuvre face à ce que tu disais, la force, la puissance des GAFAM qui nous encourage à acheter toujours plus, plus vite et de recycler, enfin de changer d'appareil encore plus rapidement, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc on le retrouve effectivement dans le rapport.
Après, sur la santé, là, tu parlais de la santé. Très rapidement, parce que finalement, on n'a pas dit énormément de choses, mais ce que dit le Césaire sur la question notamment des ondes, puisque c'est le sujet un peu clivant, le Césaire, lui, il constate que la question n'est pas tranchée scientifiquement et que ça reste une question clivante. C'est-à-dire que même nous, on a constaté au sein de notre commission que voilà, c'était un sujet sensible. Nous, à France Nature Environnement, pour nous, c'est un peu pareil. Hein, on est très critique par rapport aux messages alarmistes comment dire, sans fondement scientifique solide. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de fondement scientifique solide. On est aussi assez critique face à tous les discours qui diabolisent la technologie en elle-même. Par exemple, la 5G, pour nous, c'est pas la 5G qui est mauvaise, il faudrait plutôt s'interroger sur l'usage qu'on en fait, et c'est les usages qu'on en fait qui peuvent être mauvais. Voilà, concernant les ondes, étant donné qu'il n'y a pas aujourd'hui la question n'est pas tranchée scientifiquement de manière solide, en fait, ça veut dire que peut-être il y a un problème, mais donc on demande d'appliquer le principe de précaution. Et puis, par ailleurs, en termes de santé, et ça c'est ce que rappelle l'avis du Césaire aussi, il faut pas oublier que le numérique, il a bien d'autres répercussions sur la santé qui sont beaucoup plus documentées et avérées. C'est tous les impacts sur les troubles visuels, sur les troubles liés à la sédentarité, donc tous les troubles musculo-squelettiques, etc., qui sont liés à un mode de vie voilà, où on est devant son ordinateur toute la journée, et puis aussi des troubles psychologiques,
mental,
dans certains cas, des troubles même d'addiction aux jeux, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes hein, et sur lesquelles il faut absolument qu'il y ait de la sensibilisation. Et donc là-dessus, le Césaire constate, après il fait pas vraiment de préconisation particulière, à part voilà, faire de la sensibilisation au maximum. Mais il n'a pas de solution clé en main, quoi. Voilà. Au total, en fait, il faut rappeler qu'il y a quand même 52 préconisations dans l'avis du Césaire sur le numérique, sur tout un tas de sujets. Autres, il y a la fracture numérique, les aides sociales, la formation, le télétravail, la cybersécurité, etc. Donc, moi, j'incite tout le monde à aller regarder cet avis pour voir un peu.
Alors, j'avais relevé aussi page 131 justement, alors je continue dans les recommandations, j'en avais relevé quelques-unes, mais inciter la région à faire un bilan de sa dépendance aux GAFAM concernant ses outils numériques, ordinateurs, tablettes, systèmes d'exploitation, logiciels de bureautique. Je trouve que cette démarche-là, elle est extrêmement intéressante parce que ça peut permettre de mesurer l'ampleur finalement de l'entrisme de ces structures-là. Par contre, à mettre en œuvre, c'est peut-être pas simple.
Ça, c'est le type de préconisation qui est assez classique venant du Césaire. C'est-à-dire, quand on a un phénomène comme ça, la première chose à faire pour prendre des bonnes décisions politiques, c'est de bien observer et de bien mesurer le phénomène. Ça c'est classique. On peut créer un observatoire, ça c'est des choses qui se font, hein. Ça pourrait très bien se faire un audit de toute l'administration régionale avec cet angle-là, et puis derrière, une fois qu'on a des bonnes données, qu'on sait où on en est, à ce moment-là, normalement, les décisions peuvent être prises de manière un peu mieux référencée, quoi. Voilà.
Et est-ce qu'on sait si d'autres régions ont déjà fait ce travail-là, si l'Occitanie l'a pas encore fait ?
Alors ça, je l'ignore. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que cette question-là a été quand même un peu plus prise en compte dans un certain nombre de régions, puisqu'il y a pas mal de régions, notamment, qui ont des GIP, groupements d'intérêt public, pour promouvoir auprès des administrations des solutions libres. Voilà, ça c'est quelque chose qui manque par exemple en Occitanie. Et donc on voit bien que dans certaines régions, il y a une prise de conscience un peu plus forte que dans notre région.
D'accord. Donc on essaiera de voir si effectivement dans d'autres Césaires dans d'autres régions il y a eu ce genre de recherche. J'ai retrouvé effectivement la préconisation 45 hein, qui dénonçait le double langage qui consiste à inciter les gens à faire des efforts de sobriété et dans le même temps les pousser à consommer au maximum. Je trouve que en tout cas, c'est pas toujours évident d'avoir cette prise de conscience là. Le fait de l'écrire, il y a déjà une forme de prise de conscience qui montre quand même effectivement l'ambiguïté qu'on peut avoir avoir au quotidien, qu'on retrouve dans nos quotidiens à l'échelle de, à notre échelle à nous, et puis évidemment à des échelles régionales ou même nationales, quoi. Je trouve que, alors même si évidemment il faudrait aller beaucoup plus loin, je pense que cette prise de il faut passer par cette prise de conscience là pour pouvoir après aller peut-être aller au-delà et poser les questions qu'on se posait tout à l'heure, question de neutralité du net. Est-ce qu'il est pas temps de se reposer la question, mais alors évidemment avec la précaution de savoir qui décide, quoi, comme le disait Shoshana Zuboff dans Le capitalisme de surveillance, quoi. Être très vigilant à qui décide. Très bien. En tout cas, merci pour tous ces éclaircissements. Alors, j'avais relevé aussi en annexe, page 113 du rapport, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, moi, sur la question du numérique. Évidemment que on essaye de nous dire la société va être complètement numérisée, on va plus avoir d'options. Et finalement, il y a une référence au défenseur des droits qui préconise, alors lui aussi, il est dans la préconisation, je pense pas qu'il ait valeur de décision, mais en tout cas, qui préconise d'avoir toujours plusieurs modalités d'accès aux services public en dehors du numérique. Est-ce que éventuellement tu peux éclairer un peu ça, si tu maîtrises un peu la question?
Alors je maîtrise pas suffisamment cette question là. je très franchement là ça sort un peu de mes compétences. Effectivement, on s'est intéressé à ce que préconisait le défenseur des droits et on a repris à notre compte cette préconisation là. Après ça sort un peu de mes compétences. J'ai vu aussi que récemment, en fait, il y a un autre quelque chose qui est très intéressant, c'est la loi REEN, RIN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, RIN ?
On va trouver sur le chat, je pense. On va demander.
Réduction de l'empreinte environnementale du numérique.
Merci, Étienne.
Voilà, L'April s'était un peu mobilisé sur cette question, justement, pour contribuer au fait que le logiciel libre doit être un vecteur d'une informatique plus durable.
J'ai vu qu'elle a été adoptée donc en novembre là, 2021, c'est vraiment tout récent, et je me dis aussi que ça va peut-être un peu changer la donne. J'ai vu qu'il y a un article, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Il y a un article qui dit que toute technique, y compris logiciel, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, serait interdite à l'issue d'un délai prévu par le code de la consommation. Alors, j'ai pas regardé quel était le délai, mais il me semble que j'avais lu que c'était 2 ans. C'est-à-dire, par exemple, cette loi, moi j'ai l'impression qu'elle aura pour impact d'empêcher la région Occitanie de fournir des ordinateurs aux lycéens qui soient totalement verrouillés, en tout cas peut-être momentanément, mais à partir d'un certain temps ils devraient être déverrouillés, si j'ai bien compris l'esprit de cette nouvelle loi.
D'accord. Bon, c'est un éclairage effectivement que j'avais pas moi perçu, mais ça peut effectivement aider à prolonger la durée de vie des ordinateurs, des tablettes, etc., quoi. Très bien. Alors moi j'avais peut-être une question, on en a échangé un peu préalablement, mais finalement comment ça fonctionne, finalement, les avis qui sont produits en région par rapport aux autres régions? Est-ce qu'il y a des interactions, des échanges entre les différents Césaires? Est-ce que par exemple, avant de commencer à produire un avis, vous regardez ce qui est produit dans les autres régions sur le même sujet? Comment ça c'est fédéré, alors fédéré c'est peut-être pas le bon mot, mais comment le CESE s'empare aussi de toute la matière qui est produite? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Et la question évidemment sous-jacente, hein, c'est quel effet un avis qui, comme celui qui vient d'être produit, peut avoir à court, moyen, long terme?
Oui. Alors, bon, d'abord sur les relations entre Césaire, les différents Césaires, les CESE, bon, il y en a pas énormément. C'est déjà compliqué de travailler en interne dans chaque Césaire. Il y a déjà toutes les relations entre les différentes commissions, etc., à mettre en œuvre, donc c'est quand même complexe. Sur ce sujet du numérique, j'ai pas connaissance qu'il y ait des interactions entre les Césaires. Par contre, ça arrive, par exemple, là, sur la pollution de la mer par les plastiques, là, que c'est un peu, enfin, l'urgence maritime, il va y avoir un événement mutualisé qui est en construction pour l'automne 2022. Qui va se passer à Montpellier d'ailleurs, donc ça arrive parfois qu'il y ait des actions communes entre ces aires. Après, les conseillers des Césaires font partie de structures nationales. Je veux dire, c'est des associations. Moi, je fais partie d'une association nationale. Et, les syndicats, pareil, font partie d'organisations nationales. Donc, on peut avoir des liens informels avec nos homologues d'autres Césaires, ce qui crée pas mal de liens transversaux entre les Césaires. Et c'est mon cas, par exemple, puisqu'il y a d'autres membres de FNE dans la plupart des Césaires. Et aussi avec le CESE, puisqu'on a aussi des membres dans les CESE. Après, sur le, qu'est-ce qu'on peut espérer, moi j'espère que la région Occitanie, elle va suivre certaines de ses préconisations. Si on reste à la question du libre, il y a quand même de quoi faire si on compare avec les politiques d'autres régions. Donc clairement, on a mis en évidence qu'en Occitanie, il y a un petit effort à faire. Après, bon, le Césaire, il a pour vocation d'aiguillonner hein, la majorité régionale, mais ses avis sont juste consultatifs, donc on espère voilà. qu'il va en rester quelque chose.
Maintenant, il faut un peu d'espoir quand même, sinon, sinon on se dit
oui,
tout
ça. Oui, voilà, et puis il faut faire vivre ses avis, c'est un peu aussi pour ça que j'interviens à la radio.
Oui, ben on espère que ça.
Pour que d'autres gens le reprennent, que la région ait bien conscience qu'il existe, que de ce qu'on dit dedans, qu'elle s'y intéresse. Et voilà, et que ça reste pas juste un texte publié qui finit dans un coin. Il faut que les gens s'en saisissent.
Comment, en tant qu'association ou citoyen, on peut peut-être aider les Césaires à promouvoir des avis? Ça c'est quoi? C'est relayé? C'est...
Moi, je pense qu'il faut les lire déjà.
C'est une bonne première étape.
Si vous regardez les sites des Césaires, oui, vous verrez, il y a vraiment, c'est très riche. Et puis voilà, il faut pas hésiter à les utiliser dans vos plaidoyers. Il faut les citer. Il faut s'y référer. Pas hésiter. C'est vrai que ça, quand un Césaire a préconisé telle ou telle chose, ça a quand même un certain poids. Je veux dire, quand on s'y réfère dans un argumentaire. Après, bon, voilà, en dehors de ça, pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire l'essor du logiciel libre, bon, il y a faire soi-même déjà l'effort de passer au libre dans un cadre personnel, professionnel, associatif. Voilà, je pense que ça c'est important. Et puis après, il faut que chacun s'implique dans les débats publics quand il en a l'occasion. Voilà, ça a été mon cas en tant qu'écologue. Je n'avais pas forcément vocation à promouvoir le logiciel libre au Césaire, mais voilà, l'occasion s'est présentée, je l'ai fait. Il faut que chacun aussi prenne ses responsabilités. Et puis voilà, il y a une autre chose qui est très importante. C'est aussi vrai dans le domaine de l'écologie que dans le domaine du numérique, c'est qu'il faut se structurer collectivement. Et pour ça, moi, je pense que des associations comme l'April ont toute leur place, quoi. Voilà, il faut soutenir les associations qui permettent d'amplifier le mouvement.
Bah, je ne peux qu'acquiescer. Il nous reste une dizaine de minutes. Moi, j'aurais peut-être deux questions encore. Peut-être la question de l'école. On l'a un peu évoqué hein, sur le matériel fourni aux élèves. Mais finalement, il y a plusieurs échelons. D'abord, il y a les collèges, les écoles. On sait bien que les décideurs se situent pas au même niveau. Bon, alors évidemment, le Césaire a fait un avis un peu global. Mais est-ce qu'il y a des moyens d'agir un peu plus concrètement qu'un avis un peu global? Ça, c'est peut-être une première question. Et puis après, peut-être, je te laisserai conclure, peut-être répéter le message le plus important de tout cet échange que nous avons pu avoir dans les 10 minutes qui nous restent.
Alors, bon, pour l'école, le Césaire, dans sa compétence, puis dans les compétences régionales, s'il y a quand même les lycées, moi, je pense que la région a des moyens d'agir, en tout cas au moins au niveau des lycées. C'est-à-dire, ben, voilà, essayer de, quand on équipe un lycée en matière informatique, de pas équiper, pas forcément déjà avec du matériel neuf, il peut y avoir des mutualisations, etc. Et puis surtout, avec des logiciels libres, et puis faire de la formation aussi des étudiants dès le départ à la programmation, enfin à la maîtrise en fait de l'outil, et pas qu'il soit pas d'emblée dans une situation de consommateur primaire de numérique, quoi. Voilà. Moi, après, il y a d'autres niveaux, effectivement. Le niveau universitaire est très important aussi, je pense. Et en tant que dirigeant associatif, je suis assez désespéré d'accueillir des étudiants stagiaires qui ont été formés sur des logiciels propriétaires et qui sont incapables d'en sortir, vraiment. Donc, qui du coup parfois nous rendent des travaux qui sont non réutilisables si on n'achète pas leur logiciel, enfin le logiciel que leur formation leur a imposé. Et sans compter que même souvent on n'a pas les moyens de se payer ces logiciels-là alors que des équivalents libres existent et qu'ils utilisent des versions piratées. Donc moi je pense que dans le secteur de l'enseignement supérieur aussi il y a vraiment beaucoup à faire.
D'accord.
Merci. Ouais, pour l'école et je pense que ça se passe bon peut-être un peu au niveau régional mais ça se passe surtout au niveau réglementaire. Je sais qu'il y avait eu plusieurs tentatives. De faire passer des textes qui sont un peu plus contraignants et je sais qu'à chaque fois ça a été un peu comment dire détricoté et amendé et affaibli et bon voilà c'est un combat qu'il va falloir continuer à mener. Après sur que retenir moi en fait il y a quelque chose qui me frappe un peu c'est que dans le monde comment dire du militantisme social qui est quand même très présent au Césaire, hein, bon, au travers des syndicats, des associations sociales, aussi des, je vois, c'est un peu pareil aussi dans les partis politiques, on va dire de gauche, quoi. Je trouve qu'il y a une faible prise de conscience de l'importance des questions de liberté numérique. Vraiment, on a parfois des militants qui toute leur vie se sont battus pour les libertés en général hein, dans la société et puis quand on passe dans le monde numérique d'un coup c'est comme si c'est comme ça voilà il n'y a pas d'alternative et je trouve que voilà c'est très regrettable. Alors, il y a peut-être un effet générationnel bon c'est sûr qu'il y a un peu un effet générationnel en tout cas dans des instances comme le Césaire mais voilà, j'espère que ça va changer parce que dans un monde qui devient complètement numérique, si on s'intéresse pas aux libertés numériques, je pense que l'avenir est très sombre.
Oui, je converge avec ce constat. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours simple de faire comprendre les enjeux qui sont liés aux libertés informatiques. Et moi, je découvre aussi des associations qui sont très sensibles à la question de l'aval, c'est-à-dire comment soigner finalement quelque part, comment essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il faut avoir leur faire prendre conscience de leurs usages, etc. Donc, ils sont plutôt dans l'aval, mais ne se posent pas du tout la question de l'amont, quoi. Et donc, du coup, cette mise en cohérence de se préoccuper de l'aval et de l'amont me semble vitale et effectivement on n'a encore pas abouti sur cette mise en cohérence je dirais. On avance mais on n'a pas encore abouti à tous les échelons associatifs je dirais.
Nous c'est pareil hein, nous aussi à France Nature Environnement on est traversé par ces réflexions et c'est pas toujours évident on est très divers et c'est pas toujours la priorité de se préoccuper des logiciels libres. Après, il y a quand même eu un certain nombre d'expérimentations intéressantes. Par exemple, tout le mouvement quasiment FNE est passé sous CIVI-CRM, hein, qui est un système libre de gestion de tout ce qui est les bases de données, les contacts, etc. Donc, il y a des expérimentations, il y a des réflexions en cours, mais c'est vrai que nous aussi, hein, on a encore pas mal de progrès à faire.
Je pense qu'on pourra peut-être te réinviter hein, ultérieurement pour justement que tu nous expliques comment c'est engagé, comment se poursuit la migration peut-être vers le logiciel libre à France Nature Environnement, en Occitanie ou peut-être même à l'échelon national, parce que c'est toutes des questions de réseau, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, on est obligé de se mettre en réseau pour peser plus, comment on travaille en réseau, enfin voilà, toutes ces questions, on a déjà eu des sujets comme ça avec certaines associations, mais du coup avoir une perspective une diversité de vision, moi je trouve ça toujours extrêmement riche, extrêmement intéressant quoi. Donc voilà, on te réinvitera. Je vais peut-être devoir clore le sujet, Étienne. Peut-être que on va en rester là pour cette fois, sauf si Simon tu as un dernier mot, une dernière minute.
Alors pour la pro- prochaine invitation, peut-être il faudra faire appel à un technicien plus plus compétent que moi sur les arcanes informatiques de la fédération. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir invité à m'exprimer sur cet avis du César. Et voilà, je vous encourage à nouveau à le lire et vive le logiciel libre.
Merci beaucoup Simon, et je répète, lisez cet avis.
Oui, merci beaucoup pour ce témoignage et puis pour ces belles paroles de conclusion. Et du coup, effectivement, vous mentionnez, je vais juste peut-être profiter, juste le temps de faire cette petite aparté, vous mentionnez la loi pour une réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est effectivement, alors on sait qu'un des facteurs importants, c'est l'obsolescence logicielle, et qui consiste notamment sur ces systèmes de restriction d'installation de logiciels. C'est des restrictions qui rendent difficile, voire impossible, l'installation de systèmes d'exploitation libre sur un ordinateur, et souvent sous des prétextes de sécurité. On sait que c'est un gros enjeu pour la durabilité des systèmes. Et donc, l'April avait poussé un amendement pour rendre ce genre de restriction illicite. Et malheureusement, un amendement a conditionné cette interdiction à l'expiration de la période de conformité légale de 2 ans. Ce qui, à notre sens, réduit quand même assez fortement l'impact positif de l'amendement. Mais bon, ça avance tout de même dans la bonne direction. Et vous retrouverez l'analyse de l'April. Je mettrai le lien sur la page de référence de l'émission. En tout cas, un grand merci pour ce temps d'échange que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Et justement, on n'a pas forcément besoin toujours d'une lecture technique. Et je pense que c'est important aussi de savoir prendre ce pas de recul d'une lecture politique des enjeux. Et je pense que ce rapport permet cela et cet échange aussi. Merci beaucoup Simon, merci Laurent.
Merci Étienne. Merci Simon.
Merci beaucoup.